RFI, grand reportage.
Le Liban, un pays agité depuis plus de 3 mois par un mouvement de contestation de la classe politique. Un nouveau gouvernement a pris ses fonctions fin janvier, déjà critiqué. Il doit affronter une crise économique sans précédent. Le Liban, entre incertitude politique et naufrage économique, c'est un grand reportage de Nicolas Falaise et Julien Boileau.
On est un pays en faillite. On mendie notre argent, on n'a plus de quoi survivre. Et tout a été pillé et volé. Rien n'a été fait dans le pays.
On sent de la colère chez vous?
Ah oui, beaucoup de colère. Et la plus grande colère chez moi, c'est qu'ils ont fait de moi une mère dénaturée. Une mère qui prie le bon Dieu tous les soirs que son fils ne soit pas là.
Il est où votre fils?
Il est en dehors du pays, il est à Londres.
Pour travailler parce qu'il n'y a pas de travail au Liban?
Il travaille. Il a fait ses études en France, il travaille dehors.
C'est le cas de très nombreuses familles libanaises?
Pas nombreuses, la plupart. Et ceux qui sont là n'ont pas la chance de partir, c'est tout. Quel moment on n'a pas envie d'avoir ses enfants autour d'elle? Voilà, on est seul, on essaie de reconstruire un pays qui est en faillite. Et la faillite, c'est eux qui l'ont causée.
Faoura, révolution, scandent les manifestants libanais depuis le 17 octobre dernier.
Tout devrait changer. Il faut mettre fin à la corruption, il faut le même droit à l'éducation pour tous, il faut un système de retraite, un système de sécurité sociale, de l'électricité, une eau potable. En fait, il faut tout changer.
Régulièrement, les rassemblements tournent à l'affrontement avec les forces de sécurité. De petits groupes de manifestants lancent des pierres ou tentent d'escalader les grilles de bâtiments officiels dans le centre de Beyrouth. Et ils font face à des grenades lacrymogènes et des canons à eau. Des balles en caoutchouc ont aussi été utilisées.
Nous, on voudrait garder le caractère complètement unifié et pacifiste de notre révolution. Aujourd'hui, comme il y avait beaucoup de monde, je me suis dit, bon, ça c'est une force, alors je vais me joindre et je vais faire partie du nombre. On ne voudrait pas qu'on prenne prétexte des violences qu'il y a pour dire que la révolution n'est pas pacifique, c'est faux. La révolution est absolument pacifique, il y a beaucoup de solidarité, on ne veut que l'unité entre toutes les confessions, toutes les parties de la population. On veut un Liban nouveau.
Les manifestations ont entraîné la démission du gouvernement libanais dès le mois d'octobre. Un nouveau Premier ministre a été désigné et lorsque celui-ci a dévoilé la composition de son équipe le 21 janvier dernier, les protestataires libanais n'ont rien vu de nouveau.
On ne veut plus des têtes masquées. C'est les mêmes têtes sous d'autres formes. Donc c'est la même politique sous d'autres noms. Donc on est toujours dans la merde et on ne veut pas ça. On ne veut plus ça. On veut des gens vraiment qui s'y connaissent, qui savent quoi faire, comment sauver ce pays, qui est un bijou à la base, mais ils ne savent pas comment, ils ne veulent pas surtout. On est là pour faire la pression, pour avoir ce qu'on veut et finalement vivre dans un pays qui se respecte et qui marche. Voilà.
C'est le gouvernement de Hezbollah, ce n'est pas le gouvernement libanais. Parce que c'est eux qui ont nommé tous les ministres dans ce gouvernement-là. Et ça va nous causer beaucoup de problèmes économiques, en plus que tous les problèmes que nous avons au Liban. Alors c'est pas bon du tout.
Vous attendiez vraiment une autre équipe, un autre gouvernement?
On attend une équipe qui n'est ni avec Hezbollah, ni avec les autres. On attend une équipe de spécialistes qui vont faire le travail pour récupérer les années perdues du Liban. Ça fait 30 ans qu'ils nous volent. Et après... Moi, j'ai 26 ans, j'ai rien sur moi, j'ai rien. Le gouvernement ne m'offre rien, zéro, nul. Comme tu es né, tu meurs, tu n'as rien. Tu dois faire tout, tu dois voyager, travailler dehors pour amener l'argent pour vivre dans ce pays-là.
Certains matins à Beyrouth, le verre brisé sur les trottoirs raconte la colère de la veille. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Jamil Seyed, militaire pendant 37 ans, surtout dans les services de renseignement. Il a notamment dirigé la Sûreté Générale du Liban. Aujourd'hui, Jamil Seyed est député. Il se présente comme indépendant, mais ne cache pas sa proximité avec le puissant parti chiite Hezbollah.
On peut dire que c'est un gouvernement exceptionnel. Les gens avaient marre de la corruption et le partage politique qui se faisait au niveau des communautés et des leaders politiques qui ont transformé l'État en quatre États, chiites, sunnites, druzes et chrétiens. Chacun a pris une partie. Tout ça a créé une ambiance de protection politique ou communautaire, religieuse. À partir de là, la corruption est une conséquence. Le soulèvement des gens leur a fait peur. Donc, ils ont sûrement résisté pendant ce temps-là pour ne pas changer. Mais n'empêche, il y a eu un changement avec ce nouveau gouvernement. Le grand changement dans ce gouvernement, il est majorité technocrate. Hein? Il n'y a pas eu parmi lui des ex-ministres dans le dernier gouvernement. Troisièmement, ce sont des gens qui ne sont pas membres ni dans les partis politiques du pouvoir, ni dans les courants politiques qui sont en train d'avoir des blocs dans le Parlement. Il n'y a pas parmi eux des députés. Tous ces critères-là ont été imposés à travers les échos de la rue. Sans ces échos de la rue, sans cette pression, il n'y aurait pas eu cette concession de la part de la classe politique qui gouverne le Liban depuis 30 ans.
Politiquement, on voit bien que les ministres nommés sont plus proches du Hezbollah, du courant patriotique libre du président Aoun. Est-ce qu'on a donc un gouvernement qui est plus identifié politiquement que le précédent, qui était de larges rassemblements?
Les gouvernements précédents, on les appelait gouvernements d'entente nationale. De tout temps, quand il y a des gouvernements pareils, quand ils s'entendent, ils volent l'État. Quand ils se disputent, ils la détruisent. Donc là, on a, pour la première fois depuis 1990, un gouvernement qui représente un seul côté des deux.
Masal khair, yatikoum l'afi. Fi 17 tashrin l'awal 2019.
Le gouvernement annoncé le 21 janvier ne représente que l'un des deux grands blocs politiques du Liban. Allons donc de l'autre côté. Marwan Hamadeh est druze, député de la région du Chouf depuis près de 30 ans. Il a été plusieurs fois ministre et a survécu à un attentat en 2004. Comment Marwan Hamadeh voit-il le nouveau gouvernement libanais?
Il ne faut pas se méprendre. La façade est technocrate. Mais le contenu est politique et marque un retour à l'hégémonie syrienne avec une complication supplémentaire, c'est que cette hégémonie syrienne est elle-même sous l'emprise iranienne. Donc c'est un gouvernement qui, en définitive, dans les postes principaux et dans l'esprit du gouvernement, est un gouvernement pro-syrien. Pro-Bachar, pro-iranien. J'ai toujours appelé ça un coup d'État rampant que le Hezbollah a pratiqué au Liban depuis 2005, c'est-à-dire depuis qu'ils ont assassiné Rafi Hariri, c'est-à-dire ils ont touché le corps de cette entente libanaise qui voulait sortir de l'emprise syrienne à la tête.
Est-ce que ce nouveau gouvernement va devoir aussi composer avec une opposition politique de ceux qui ne se reconnaissent pas dans sa formation?
Nous sommes dans l'opposition. Nous le sommes déjà. Nous avons refusé de participer au gouvernement parce que nous sommes convaincus que tant que le Liban ne reprend pas sa politique de neutralité entre les principaux axes, la descente aux enfers économiques va continuer si le Liban ne donne pas un coup de barre à sa politique étrangère.
La descente aux enfers économiques dont parle Marwan Hamadeh, les Libanais la ressentent tous les jours. Nous sommes à Tripoli, la grande ville du nord du Liban. Dans le dédale du marché couvert se succèdent les boutiques de fruits et légumes, d'épices, de viande, de vêtements et de bijoux. C'est ici que nous rencontrons Rima, trentenaire à la peau claire, le visage encadré d'un foulard noir. Rima règne sur les piles de vaisselle, d'ustensiles de cuisine et d'appareils électroménagers qui s'entassent dans son petit magasin.
La situation économique n'est pas bonne, ça s'aggrave beaucoup, beaucoup. On était mieux avant la révolution, on arrivait à gérer. Maintenant, mon mari, mon fils et moi travaillons, mais ça ne va pas. Et si encore j'avais un employé à payer, ce serait grave. La raison, c'est le dollar, c'est l'augmentation des prix. Ça a doublé. Ce qu'on vendait avant à 8 000 livres, on le vend aujourd'hui à 16 000, avec un petit bénéfice de 1 000 à 2 000, tout au plus.
Est-ce que vous êtes inquiète pour l'avenir ?
Ça va aller de mal en pis. Ils ont fait une révolution, et moi je suis avec la révolution. On la soutient, on n'est pas contre. On est prêt à descendre dans la rue avec mes enfants. Mais qu'ils nous donnent la bonne révolution, la juste. Personne ne se soucie de nous, ni État, ni président, ni ministre, ni député. Personne. Eux vivent et à nous de nous débrouiller pour survivre. On vit à défaut de mourir. Mais ma situation n'est pas la pire. J'ai entendu une pauvre l'autre jour en achetant de la viande. Elle disait qu'en achetant 200 grammes, elle faisait plusieurs repas. Pour moi, c'est une tragédie.
Devant le magasin de Rima passe Widad. Elle a des sacs plastiques au bout des bras. La jeune femme travaille à la bibliothèque d'une école de Tripoli. Et malgré cet emploi, nourrir ses trois enfants est devenu un casse-tête.
Bien sûr, au lieu d'acheter 3 kilos, on achète maintenant 1 kilo. Le kilo d'oignon, par exemple, coûtait 500 livres. Maintenant, il est à 1000, 1500 même dans certains magasins. Au lieu de faire, par exemple, un plat avec 2 kilos, on le fait avec un seul et on fait un plat à côté pour que les enfants mangent à leur faim. Ils n'y sont pour rien. Même les enfants ont changé. À l'école cette année, j'en ai un en terminale, l'autre qui passe le brevet. Ils ne veulent plus étudier. Ils restent 10 jours à la maison pour un jour passer à l'école. Beaucoup de choses ont changé. Pour nous, c'est pire en pire et vraiment, on n'en peut plus.
Ce centre commercial s'appelle Le Mall, tout simplement. Nous sommes dans le quartier de Sine El Fil, dans la banlieue de Beyrouth. Sur 4 niveaux, il y a une 60aine de magasins. Comme partout dans le monde, les grandes enseignes de prêt-à-porter et de restauration rapide. Ici, au niveau 2, nous entrons dans un magasin de chaussures.
People don't come often here.
Souvent, il n'y a pas beaucoup de clients et ils n'achètent pas beaucoup d'articles. C'était différent les années précédentes.
Est-ce que vous vous inquiétez pour le futur de ce magasin de chaussures où vous travaillez, voire même pour le futur du mall, du centre commercial dans lequel est situé le magasin?
Ce mall va bientôt fermer, vers la fin du mois de mars, je pense. C'est ce qu'ils nous ont annoncé. Plus personne n'aura de travail fin mars. C'est un désastre. Plus de 400 employés vont se retrouver chez eux, sans rien.
Une autre surprise nous attend dans les allées vides du centre commercial promis à la fermeture. Le magasin de bijoux a vu son activité bouleversée par la crise.
Des gens viennent tous les jours pour vendre leurs bijoux, pour avoir de l'argent, bien sûr. Tout le monde est en difficulté au Liban. C'est triste, car ils n'ont pas d'autre solution. Ils ont perdu leur travail. Chaque jour, plus de gens perdent leur travail au Liban, vous savez. Ils n'ont pas d'autre moyen de se procurer de l'argent. Alors, ils vendent leurs bijoux.
Est-ce que vous pouvez leur donner le prix qu'ils attendent, qu'ils espèrent, des bijoux qu'ils vendent?
Nous mettons leurs bijoux sur la balance et je les pèse. Vous savez, il y a un cours international de l'or. Je calcule le prix en fonction du poids et je leur donne leur argent.
Et ces bijoux que vous avez achetés, que deviennent-ils ensuite?
Je ne les vends pas. Ils partent au siège où ils sont fondus et on crée un nouveau design, de nouveaux bijoux.
Nous sommes dans une banque du quartier d'Ashrafieh à Beyrouth. C'est au guichet que les Libanais sont confrontés chaque jour à la pénurie de dollars. Ici, la monnaie américaine est utilisée tout autant que la livre libanaise. Et la grave crise financière que connaît le pays a asséché les réserves. Le personnel de la banque ne souhaite pas que nous interrogions les clients à l'intérieur. Ce sera donc sur le trottoir devant l'agence.
C'est limité à une certaine somme par semaine.
Quelle somme ?
200 $. On doit venir chaque semaine pour retirer notre argent, perdre le temps, être en retard pour le boulot. Donc ça fait mal à la tête.
Et pourtant, c'est votre argent.
Oui, c'est notre argent, exactement. Donc, on est en train de demander notre argent, là. Oui, mais on n'a pas le choix. Le plafond était, disons, de 3 000 $ par mois. Puis on est à 1 000 $, puis on est à 500 $, puis on est maintenant à 200 $ par semaine. Donc, c'est de pire en pire. Je ne sais pas où on va arriver.
Tous les jours, les déposants se présentent devant les guichets des banques pour retirer de l'argent liquide et surtout des dollars.
Eli Yachoui est économiste, ancien doyen de l'université Saint-Joseph de Beyrouth.
Les banques n'ont pas des dollars à l'infini, ne disposent pas de dollars à l'infini. Je n'écarte pas la possibilité de voir un certain nombre de banques fermer leurs portes. Les banques ne peuvent plus satisfaire les demandes de retrait de leurs déposants des dollars liquides. C'est fini. Ils ne peuvent plus. Et la Banque centrale n'est plus une banque de recours. Et donc, ceci va accroître exponentiellement la panique des déposants. Un simple déposant, tout ce qu'il veut, je veux mon argent. Vous ne me donnez pas mon argent, je me joindrai aux révolutionnaires. Et c'est comme ça que cette révolution aura encore mille et une raisons de rester vraiment vivante.
Voilà, c'est la maison qu'on a louée pour se débrouiller en ce moment de crise. Voilà, on va rentrer là.
À quelques kilomètres au sud de Beyrouth, Hala Darouj nous fait visiter un lieu qui vient d'ouvrir, une maison accueillant des personnes sans abri pour des séjours temporaires. Hala Darouj est publicitaire. Il y a quelques mois, elle a fondé Liban Troc, au départ une simple page Facebook qui a déclenché une avalanche de gestes de solidarité.
Il y a eu cette connexion humaine entre tous les Libanais partout dans le monde qui ont commencé à offrir ce qu'ils ont et à demander ce qu'ils veulent. Donc les gens ont commencé à faire des petits groupes par région dans la page et de se rallier et d'avoir un peu de nourriture. Quand ils vont au supermarché, ils en ramènent un peu plus. On a sorti tout ce qu'on avait dans nos maisons, nos habits de nos enfants, tout ce qui était petit, nos tapis superflus, les meubles. On a commencé à se les échanger partout entre nous, des gens qui ne se connaissent pas. Ensuite, on a eu le grand problème des gens qui sont sans abri, qui ne peuvent plus payer leur loyer. On a loué une maison, c'est un travail de groupe de Libanais qui ne se connaissaient pas avant. Quelqu'un a payé le loyer, quelqu'un a offert les salons, les lits. Une ancienne amie a fait des lits tout neufs chez le menuisier, 10 lits parfaits avec des matelas neufs. Tout le monde nous posait la question de quoi vous avez besoin. En 2 jours, la maison était vide, complètement vide. On l'a louée, on l'a meublée, les armoires sont pleines. On ne sait pas comment on a fait ça. C'était un petit miracle de maison qui a eu lieu. On a eu 2 jours. En 2 jours, 5 cas de suicide des hommes libanais qui se sont suicidés parce qu'ils n'avaient pas le moyen d'acheter un sandwich à leur fille pour aller à l'école. J'ai vu une femme sur la rue qui tenait une pancarte qui voulait vendre ses organes pour pouvoir survivre. Donc là, après 2 mois de révolution et 2 mois de gens qui crient dans les rues et leurs voix ne sont pas entendues par le gouvernement actuel, que je ne sais pas leur conscience, elle est où. Je ne sais pas comment ils peuvent dormir avec tous leurs millions étalés dans les banques du monde et leur peuple est en train de mourir de faim et de se suicider. Vraiment, je ne peux pas comprendre. Au lieu de blâmer l'autre, ils doivent s'unir et réunir tout leur pouvoir pour régler la crise.
Le Liban entre incertitude politique et naufrage économique. Un grand reportage de Nicolas Falaise et Julien Boileau. Réalisation Eva Piedel. اللي عنده طيبي هالزمن بيحتر اعصابه بيحتر اعصابه بينفقد احبابه وبيجي الخانق بيقول لك ما في وفا خساره قل له اللي بيته من ازاز ما يراش حجاره ما يراش حجاره ما يراش حجاره من أين؟